L'Institut de recherche sur le Québec a publié le 7 octobre deux études qui éclaircissent la situation de la loi 101.
Entre arguments développés par les adversaires de cette loi et les nombreuses modifications apportées à la loi depuis son adoption, la situation de la charte française est délicate. Tu t'es entretenu donc avec Éric Poirier.
Oui, il est avocat et candidat à la maîtrise en droit linguistique. Il est aussi l'auteur de l'étude intitulée « La charte de la langue française et l'abandon des moyens pour atteindre son objectif ». Cette étude recense et contextualise les principales modifications apportées à la loi 101 depuis son adoption en 1977. L'auteur démontre ainsi que les amendements apportés à la charte de la langue française au fil des années ont fait perdre de vue ses objectifs originels qui consistaient à faire du français la langue commune et normale des Québécois.
On écoute.
Pour commencer, un petit rappel historique, la loi 101 a été adoptée le 26 août 1977. Cette loi mettant en place la charte de la langue française, quel était alors son objectif?
Alors l'objectif était de faire du Québec, du français la langue commune du Québec. C'est-à-dire que la loi entendait intervenir dans l'espace public à des moments précis, à des endroits spécifiques, pour inciter les Québécois à utiliser de plus en plus le français dans l'espace public. Quand on parle de langue commune, on fait plus spécifiquement référence à l'idée d'inciter des Québécois de langue maternelle ou de langue d'usage différente à utiliser le français. Par exemple, moi, Éric Poirier, je suis de langue d'usage française. Si j'entre dans un commerce et que le commis est de langue d'usage espagnole, par exemple, bien, la loi 101 entend intervenir à un endroit bien spécifique pour que graduellement et de plus en plus, je sois tenté d'utiliser le français plutôt que l'anglais.
Avant l'établissement de la charte de la langue française, quelle était la situation linguistique du Québec?
La loi 101 en 1977, en fait, était fondée sur trois commissions d'enquête qui avaient eu lieu durant les années 60, qui décrivaient la condition du français au Canada, la condition du français au Québec, la condition des francophones aussi, qui était à l'époque, durant les années 60, c'est une étude de l'étude de la commission Laurando-Dunton, une commission d'enquête fédérale, qui disait que les francophones étaient l'avant-dernier groupe en termes de revenus annuels, l'avant-dernier groupe, donc dans les groupes les moins riches, donc les plus sous-payés. Puis par rapport à la langue de travail aussi, on avait recensé que au sommet de la hiérarchie des revenus, il y avait les anglophones unilingues. Ensuite de ça, au milieu, il y avait les bilingues, donc les francophones qui avaient appris l'anglais. Et ensuite de ça, au bas de l'échelle, il y avait les francophones unilingues. Donc, on tentait, avec la loi 101, de renverser la vapeur en obligeant le français dans le milieu de travail, en obligeant les dirigeants à communiquer en français avec leur personnel. Donc, on voulait mettre fin un peu à cette discrimination-là qui avait lieu depuis des centaines d'années.
La loi 101 est une loi ordinaire, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que c'est une loi qui n'est pas constitutionnelle, qui n'a pas de caractère supralégislatif, qui n'a aucune rigidité, et j'explique les termes. Une loi supralégislative, c'est une loi qui se trouve au-dessus des autres lois. C'est-à-dire une loi qu'on ne peut pas attaquer en utilisant, par exemple, la Charte des droits, parce qu'elle a un caractère qui se retrouve au-dessus des lois ordinaires, si on veut.
Est-ce que c'est ce caractère ordinaire qui fait la fragilité de cette loi?
Les acteurs de l'époque ne pouvaient pas savoir, par exemple, que la Cour suprême allait rendre une espèce de jugement politique en 1979 pour invalider la loi 101, le chapitre sur la législation et la justice. Les acteurs politiques non plus de l'époque ne pouvaient pas savoir que en 1982, donc quelques années après l'adoption de la loi 101, que le reste du Canada allait rapatrier la Constitution canadienne et allait y inclure une charte des droits qui vient spécifiquement restreindre les pouvoirs de l'Assemblée nationale, par exemple en matière de commerce, par exemple en matière d'enseignement. Donc, tout ça, on ne pouvait pas le savoir à l'époque. Là, aujourd'hui, dans mon étude, je mets le doigt ici et là, mais j'admets qu'à l'époque, beaucoup de ces choses-là n'étaient pas connues ou n'étaient pas aussi évidentes.
Depuis 1977, la loi 101 a subi 13 modifications. Comment ont-elles orienté la charte de la langue française?
Sans exception, dans ces 13 thèmes-là, elle a été affaiblie. C'est-à-dire que partout où on entendait créer une obligation d'utiliser soit que le français, ou le français majoritairement, eh bien, à tout coup, sans exception, on est venu défaire cette obligation-là d'utiliser soit exclusivement le français ou majoritairement le français pour y inclure systématiquement la possibilité d'utiliser l'anglais un peu partout. T'sais. Et c'est pour ça que j'arrive avec le titre de l'étude, qui est l'abandon des moyens pour atteindre son objectif. Parce que comment peut-on prétendre atteindre l'objectif de faire du français la langue commune à l'aide d'une législation si finalement cette législation-là n'oblige plus personne à utiliser exclusivement le français à des endroits bien précis pour justement donner un élan à cet objectif qui est de faire du français la langue commune?
En 1988, on parle de bilinguisme avec nette prédominance du français. Est-ce que c'est un peu un cafouillis juridique?
Ouais, ben en fait, c'est ça, c'est qu'on est venu remplacer un compromis par un autre. Là, parce que si je vous explique un peu, là, ça c'est par rapport à l'affichage public et la publicité commerciale auquel on est confronté chaque jour quand on marche dans une rue ou qu'on conduit notre voiture dans une ville ou dans un village puis qu'on voit les panneaux. À l'époque, en 1977, c'était également un compromis, je l'ai expliqué un peu au début de l'entrevue, où je disais, bon, ben le principe va être l'usage exclusif du français. Donc, les entreprises doivent utiliser exclusivement le français dans l'affichage et la publicité. Et là, ensuite de ça, on créait un paquet, plusieurs exceptions. Et là, on disait, OK, dans un petit dépanneur, dans un petit quartier à 3, 4, 5 employés, mais là, il n'y a pas de problème. On peut utiliser n'importe quelle langue. Il faut que le français s'y retrouve aussi, mais on peut utiliser généralement n'importe quelle langue. Dans une épicerie qui s'adresse à une communauté culturelle bien précise, on peut aussi utiliser la langue de cette communauté culturelle-là à qui on s'adresse. Évidemment, on voulait aussi obliger que le français soit utilisé parce qu'on est partout au Québec, donc il faut partout pouvoir avoir du français. C'était ça l'objectif, tu sais. Mais en même temps, on voyait que dans ce cas bien particulier-là, on n'allait pas nuire à l'objectif de faire du français la langue commune, parce que ça, c'était, par exemple, une épicerie qui s'adressait à une communauté bien particulière. Donc là, on créait une exception. La même chose pour les églises qui pouvaient afficher exclusivement dans la langue de leur choix, donc exclusivement en anglais. Encore là, on dit, tu sais, les églises, les centres communautaires, les organismes à but non lucratif qui s'adressent à des communautés bien particulières, bien là, on ne vient pas miner l'objectif de faire du français la langue commune, parce qu'on se retrouve pas dans cette espèce de grand espace public-là qu'on tente de réguler. Il y avait d'autres exceptions aussi, là, plusieurs, tu sais, les affiches dans des congrès internationaux, etc., où on créait une exception à cette obligation d'usage exclusif du français-là.
À qui profite l'évolution du bilinguisme au Québec?
C'est ça. Bon. Ça nous amène à une autre question, tu sais. Je vous amène un peu à l'approche fédérale sur les langues. Donc, l'approche fédérale sur les langues, c'est le bilinguisme officiel. C'est de mettre le français et l'anglais sur un même pied d'égalité en droit. Et là, c'est difficile à contrecarrer cet argument-là ou ce principe-là, l'égalité des langues, parce que on est tous pour l'égalité. On veut tous l'égalité depuis que l'homme est homme, depuis que l'être humain est ici, que nos sociétés se battent pour aller vers de plus en plus d'égalité. T'sais. Mais dans ce cas ici, le bilinguisme institutionnel où on met sur un même pied d'égalité en droit deux langues, donc le français et l'anglais, est un peu un piège, est un peu un sophisme si on veut, parce que ce qu'on fait, c'est mettre sur un même pied d'égalité en droit deux langues qui sont dans les faits inégales. Donc, si on met sur le même pied d'égalité l'anglais et le français, il me semble que c'est évident que l'anglais va l'emporter si on donne le choix en mettant les deux langues une à côté de l'autre, prenez celle que vous voulez, que finalement, progressivement, l'anglais va l'emporter. Tu sais, le Québec est 2% de la population de l'Amérique du Nord. On est entouré par 350 millions d'une population de 350 millions de personnes qui parlent l'anglais. Notre voisin du Sud est la première puissance mondiale qui produit des films, qui produit de la musique, qui exporte tout ça un peu partout. L'anglais est aussi la langue de la mondialisation. L'anglais est au Canada historiquement la langue dominante, la langue des affaires, la langue du travail, la langue qui est vue comme étant la langue prestigieuse, la langue du succès, la langue de la réussite. Donc là, on va mettre sur un même pied d'égalité le français et l'anglais en se disant, nous, on est pour l'égalité, donc comment osez-vous remettre en question l'égalité de deux langues? Alors qu'on voit que c'est une espèce de piège. Tu sais, moi, je compare ça pour faire une image à... Disons, nous autres, on est pour l'égalité. Donc, on va abolir à la boxe. Donc là, je fais une analogie avec la boxe, malgré que je connais absolument rien à la boxe. Mais on va imaginer qu'à la boxe, on fera plus de catégories. T'sais, il va y avoir un seul titre pour tout le monde. Donc là, on va permettre à un homme de 5 pieds 3 pouces, 120 livres, d'aller se battre contre un homme de 6 pieds 5, 300 livres. Et là, on est tellement pour l'égalité qu'on va les mettre dans le même ring. Puis on va dire, nous autres, on est tellement pour l'égalité qu'on vous remet la même sorte de gants et allez-y, battez-vous, nous, on est pour l'égalité. Et ensuite de ça, on va se demander, après trois rounds, mais pourquoi est-ce que le petit de 5 pieds 3 est en train de se faire tapocher puis est en train de subir la défaite de sa vie? Donc, c'est un peu ça, si je veux, de mettre le français et l'anglais sur le même pied d'égalité en droit. En fait, on oublie que dans les faits, ces deux langues-là sont vraiment inégales et que l'État québécois est justement là pour venir rétablir, créer un mouvement en faveur du français parce qu'on sait que si on met les deux langues sur un même pied d'égalité, que finalement, progressivement, l'anglais va l'emporter.
La loi 101 devrait-elle espérer un caractère supralégislatif?
Bon, là, ça c'est une grande question. En fait, je vous répondrai par une autre question. Avant de se demander s'il faut la renforcer, s'il faut la modifier dans tel sens, s'il faut y apporter telle autre modification, je pense qu'il faut d'abord se poser la question, est-ce qu'on adhère toujours à l'idée de faire du français la langue commune du Québec? Cet objectif-là de 1977, est-ce qu'on est encore d'accord avec ça? Si oui, bien là, agissons en conséquence. Puis sinon, ben peut-être qu'on a décidé à travers le temps que ça ne nous intéressait plus, ce projet-là. Ben, allons dans un autre sens ou faisons autre chose. Donc, ce que je veux dire, c'est que ici, ça m'appartient pas dans cette étude-là d'indiquer oui, voici, on adhère encore à cet objectif-là. Et donc, par conséquent, il faut agir dans ce sens-là. Je pense que nos élites politiques doivent y répondre et doivent ensuite de ça agir en conséquence.
Quelle est actuellement la situation linguistique du Québec?
Officiellement, le français est encore la langue officielle du Québec. Donc, à l'article 1 de la loi 101, ça spécifie encore le français et la langue officielle. Tout ce qu'il faut se dire, c'est que tout le monde est pour ça, tu sais, je pense. C'est bien rare que vous allez rencontrer quelqu'un qui va remettre en question le fait que le Québec est une société francophone, tu sais, puis qu'il a droit à avoir le français comme langue officielle. D'ailleurs, ça serait complètement ridicule parce que beaucoup d'autres provinces du Canada ont l'anglais soit officiellement seule langue officielle ou que dans les faits, ça fonctionne qu'en anglais. Donc, je vois pas pourquoi si les autres partenaires de la fédération pourraient aller dans un sens, pourquoi nous, on pourrait pas aller dans l'autre sens, si on veut. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que tout le monde va être pour, tu sais, que le français soit la langue officielle du Québec, mais quand vient le temps d'adopter des mesures pour s'assurer que ce principe juridique-là ait un écho dans la réalité. Mais là, on voit un paquet de résistances. Ah, mais là, on peut pas faire ça. Ah, mais là, on peut pas faire ci. Tu sais, il faut rappeler qu'il faut être conséquent. D'accord à ce que le français soit la langue officielle du Québec, mais à un moment donné, faut adopter des politiques, faut aller dans ce sens-là. Tu sais, il faut que ça ait un sens.
Vous dites que la loi 101 doit s'accommoder de son statut de politique linguistique provinciale. Est-elle un jour vouée à disparaître si le caractère supralégislatif n'est pas prononcé?
Ouais, crème, ça c'est une autre très grande question. Ça revient un peu à ce que je vous disais tantôt. Si on s'assure pas que le français soit la langue commune, OK, puis là, ça... Camille Lorrain utilisait aussi le vocable « la langue utile », la langue incontournable, la langue, vous comprenez, la langue qu'on voyait comme étant finalement la langue de prestige au Québec, la langue sans laquelle on peut pas avoir de succès. Si on vient pas à bout de donner ce caractère-là, puis que l'anglais s'impose toujours de plus en plus, ben évidemment qu'il va y avoir de la pression de la part de la population pour aller dans ce sens-là, pour aller vers, OK, ben finalement, c'est, On peut rien faire sans l'anglais. Le français, c'est une langue qu'on utilise à la maison. C'est pas sérieux. Dès qu'on est sérieux, il faut utiliser l'anglais. Donc, c'est sûr, tu sais, que s'il y a une pression de plus en plus forte de la population pour aller dans ce sens-là, justement parce qu'on n'est pas venu à bout de se convaincre nous-mêmes qu'on pouvait fonctionner en français, qu'on pouvait être un état de langue française, de langue française, qu'on pouvait porter ce projet-là qui est d'être une société de langue française en Amérique du Nord. Mais si on se convainc pas de ça, puis une pression toujours dans l'autre sens, progressive, lente, tranquillement, pas par pas, mais c'est sûr que ça fragilise tout l'édifice de la loi 101 qui porte ce projet-là. Là.
Merci Éric Poirier d'avoir répondu à nos questions.
Ça me fait plaisir.
C'était donc Éric Poirier, avocat et candidat à la maîtrise en droit linguistique. Les deux études sont en ligne sur le site de l'Institut